vais traiter en deux points. Chercher Dieu et la vérité pour être vraiment heureux. Donc dans Dignitatis Humanae, nous avons lu « En vertu de leur dignité, tous les hommes, sans exception donc, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et par suite pourvus d'une responsabilité personnelle, responsable parce que doués de raison et de volonté libre, donc, sont pressés par leur nature même et tenus par obligation morale à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la religion. » Donc nous comprenons dans ce texte que ce n'est pas une option philosophique, idéologique ou culturelle ou de population, ni de génération, mais c'est lié à la nature même de l'homme, en vertu de leur dignité. Alors, sont pressés par leur nature même, donc, et tenus par obligation morale. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à chercher la vérité. L'obligation morale, c'est précisément lié à la conscience qui nous oblige, en fait. Nous on avait vu ça dans le paragraphe sur la conscience. La conscience nous oblige. Ça veut dire que l'instance suprême, finalement, qui nous jugera, d'une certaine manière, c'est notre propre conscience en acte. Et donc, évidemment, si cette conscience, nous l'avons vue déjà, elle peut être obscurcie par l'ignorance, par le péché, elle peut être déviée, ce n'est pas une instance absolue, mais c'est l'instance ultime qui nous oblige, parce qu'en fait, elle est liée à notre dignité humaine, à notre dignité personnelle. En quelque sorte, pour se regarder dans la glace, il faut répondre à sa conscience. C'est ça que ça veut dire, quelque part. Et je me souviens bien, quand j'ai été appelé au prêtre par un mouvement intérieur fort, alors que je n'y attendais finalement pas vraiment, enfin, je me demandais des éclaircissements à Dieu, mais je ne pensais pas qu'il répondrait aussi fortement, eh bien, je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui m'a obligé? Pourquoi est-ce que j'ai... Parce que ce n'est pas tout sur un acte d'enthousiasme, ou d'être fasciné par le faisait le prêtre. D'abord, je ne savais pas très bien ce qu'on faisait comme prêtre, et ce n'était pas du tout mon ambition humaine. Ça, la religion ne m'a jamais vraiment passionné en tant que tel. Mais il y avait une obligation de conscience. C'est-à-dire que je savais que pour me regarder en face dans la glace, pour être vraiment... Si je devais être fidèle à moi-même et à mon jugement de conscience intérieure, eh bien, je devais répondre oui. C'est ça, en fait, le point. Obligation morale, donc ça veut dire ça. Donc, à chercher la vérité. Donc, c'est lié à notre injonction morale, à notre injonction de conscience, mais aussi au fait que nous soyons des êtres de raison et d'intelligence. Le propre de l'intelligence, c'est de chercher et de saisir la vérité. C'est fait pour ça, l'intelligence. Donc nous sommes avant tout des êtres intelligents, et donc qui cherchons la vérité, voilà, qui cherchons ce qui est la réalité, et à la comprendre, à en saisir toute la subtilité, toute la force, toute la complexité. C'est par nature, même si on est un homme manuel ou si on est peu cultivé, pour tout homme, il en est ainsi. Et ce, dans son domaine, enfin dans ce dans quoi on est baigné, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si on est enfant de normalien, ben on cherchera à baiser de cette manière, mais si, comme Jésus, on est enfant de menuisier, eh bien, on la cherchera aussi autrement, mais on la cherche toujours. Voilà. Alors, cette vérité, qu'est-ce qu'il en est? Et là, le concile le développe un peu davantage. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez lu dans les textes d'Écriture un extrait très connu, très fameux, de l'Évangile de Saint Jean. Celui qui connaîtra ma parole sera mon disciple, et s'il est mon disciple, alors il connaîtra la vérité, et c'est alors, connaissant la vérité, qu'il deviendra libre. Donc là, l'enchaînement est très précis. Et un peu mystérieux aussi. La source, c'est la parole pour devenir disciple de Jésus, c'est-à-dire pour le connaître vraiment et le suivre. C'est l'intelligence de la parole, la connaissance de la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament. Ce n'est pas cette intelligence de la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, qui me fait connaître la vérité. Ce n'est pas ce que dit le texte. Ça me rend disciple, ami de Jésus, disciple, celui qui se laisse enseigner par lui. Et donc ce qui me fait connaître la vérité, ce n'est pas ce que je lis dans les textes, ce que j'apprends dans les textes, c'est le fait d'être disciple de Jésus. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, bien sûr, ça va avec ce qu'il va dire au chapitre 14, « Je suis la vérité », comme j'ai entendu Sylvie extrait de mon oreille. « Je suis la vérité », c'est-à-dire que, en fait, c'est dans cette relation au Verbe éternel, à Dieu lui-même, dans l'humanité de Jésus, que j'entre dans la réalité, dans la réalité de ce qu'est non seulement le monde, mais tout ce qui porte le monde, c'est-à-dire Dieu lui-même et sa sagesse, son dessein bienveillant, ce qu'il a... tout ce qu'il est, sa loi éternelle, finalement. Donc, il est comme plus réel que le monde matériel et cosmique, et même que toute notre éducation, toute la sagesse humaine, qui est un vrai reflet à l'image de Dieu. Tout ça, ça vient de l'homme, c'est à l'image de Dieu. C'est pas rien du tout. Mais justement, c'est à l'image de Dieu, et par le fait de connaître Jésus, je ne connais pas seulement le reflet, mais je connais Dieu lui-même. Il se passe un peu la même chose avec le temple. Pour les Juifs, il est très clair que le temple à Jérusalem, il est fait à l'image du temple éternel. Ils ne sont pas idiots, ils savent bien que le temple éternel ne s'agit pas d'une maison en pierre ou je ne sais pas quoi. Évidemment non, c'est un reflet dans la création, dans l'histoire, dans l'humanité, d'un temple qui lui est spirituel et qui est réel. Donc on a un reflet réel, mais d'un temple qui n'est pas moins réel, qui est encore plus réel, et qui est spirituel et qui est au ciel. Ça, c'est très clair pour les Juifs. Et donc, du coup, quand Jésus dit qu'il est ce temple sur la terre, en fait, en la personne de Jésus, se conjoint en une seule réalité, un temple sur la terre, qui est son humanité, et le temple du ciel, qui est lui-même. Parce qu'il est le Verbe, il est Dieu. Donc nous comprenons qu'en étant disciple de Jésus, on entre en relation, en amitié, en intelligence, en amour avec celui qui est le Verbe éternel, avec celui qui est Dieu, qui est la loi éternelle, la sagesse éternelle, qui est le temple éternel. Nous entrons en relation avec lui. Peut-être que vous avez eu, la chance, vous avez sans doute eu la chance dans différents domaines de rentrer en contact avec quelqu'un d'immensément cultivé. Vous n'avez pas lu le centième des livres qu'il a lu, mais vous êtes en amitié avec lui. Et il vous partage, par son amitié, il vous partage beaucoup de choses qu'il sait, mais qu'il a... il est comme une fenêtre sur un savoir que vous n'aurez jamais, qui est inaccessible. Mais par lui, par l'amitié avec lui, vous en avez un accès réel. Et vous en jouissez beaucoup. Et même vous prenez à être intelligent et cultivé. Parce qu'en parlant avec lui, on devient intelligent. En discutant avec lui, on devient cultivé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut rencontrer des gens comme ça. Pas tous les jours, mais ça arrive comme ça dans la vie, parfois, on rencontre des gens comme ça. Et, ou dans une conférence, ou même à la télévision, d'ailleurs, simplement. La télévision, là, c'est merveilleux. Ou sur Internet. Bon, c'est un peu analogique, ce que je dis là, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en rentrant en relation avec Jésus, qui est la vérité, eh bien... Nous entrons en intelligence par son amitié, par sa relation avec lui, avec un monde et des réalités et une sagesse qui nous est complètement inaccessible. Et ça là, Jésus le veut délibérément. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ça aux sages et aux savants, d'avoir révélé aux tout petits. Comment ? Parce que tu l'as révélé à moi, Jésus, qui suis tout petit. Dans mon humanité, je suis tout petit. Je suis un fils de charpentier de Nazareth, un bled perdu en Galilée, très lointain descendant de David, mais comme il y en a des milliers et des milliers en Israël, enfin des descendants de David, il y en a autant que de descendants de Louis XIV en France. Et donc, voilà. Bon, je m'arrête là parce que sinon je ne vais plus m'arrêter. Mais ça vous va ? Enfin, vous voyez à peu près. Donc, oui. Donc, étant mon disciple, vous connaissez la vérité, et la vérité vous rend libre. Alors là aussi, il y a un saut encore supplémentaire. Pourquoi la vérité vous rend libre ? On peut le prendre à différents niveaux. Déjà, au simple niveau humain et, j'allais dire, même philosophique, le fait de connaître les choses, de prendre de la distance, de la profondeur, ben, ça me rend libre d'apprécier mon environnement à la lumière de quelque chose qui est plus profond, si vous voulez. Et donc, j'ai une distance de critique, une distance d'appréciation, une distance avec ce qui... Parce que j'ai des codes, je sais... En tout cas, j'ai des codes, j'ai une lumière pour lire la réalité. Je ne suis pas enfermé dans mon quotidien au jour le jour. J'ai une distance qui me permet d'avoir une vraie liberté d'action, d'appréciation. Je ne suis pas comme quelqu'un qui serait toujours au ras du sol. Tout à coup, hop, je monte en hélicoptère ou je monte sur un arbre et je vois les choses dans son ensemble. Et donc, je me situe beaucoup mieux. Je sais où aller, comment faire, enfin... C'est très humain ce que je dis là, mais c'est déjà un premier niveau. C'est le propre de la culture, si vous voulez. J'ai pris conscience de ça dans la relation avec un jeune homme dont le père était le gardien de la maison de repos des prêtres de Paris, dont je vous ai peut-être déjà parlé, je radote. Donc lui, après sa retraite, et puis j'ai pas mal poussé pour que son jeune fils, à 21 ans, reprenne la maison. Et puis bon, voilà, donc il a repris la maison, c'était super. Donc il y a une amitié entre nous, mais ce garçon n'est absolument pas cultivé. Il a quitté l'école à 14 ans, sa culture c'est Internet, enfin Internet des jeux, des trucs. Il n'a jamais lu un livre, enfin... Et il est parti avec sa copine en visiter l'Italie du Nord. Alors moi j'étais ravi, c'est extraordinaire. Ils ont été à Gênes, ils ont fait le tour de la banlieue de Gênes, ils sont revenus en France, et ils m'ont dit que dans l'Italie du Nord, vraiment, il n'y a pas grand-chose à voir. Alors, il dit, mais comment c'est possible ? Par Internet, on tape Italie du Nord, on voit tout de suite les grandes villes à voir, enfin, en trois clics, on achète le guide vert, enfin, c'est... Mais oui, mais il faut encore penser à acheter le guide vert. Il faut savoir que ça existe, un guide vert. Il faut aussi avoir dans sa tête les réflexes de savoir où cliquer sur Internet. Sur Internet, vous avez tout, mais si vous ne savez pas où le trouver, vous n'avez rien. C'est très frappant, je me suis abonné à YouTube. Par YouTube, musique, on a accès aux classiques, absolument à tout, même des choses introuvables. Mais si vous n'avez pas les clés, la culture pour savoir où trouver quoi, ne serait-ce que le nom de l'auteur, le musicien, ben vous n'avez pas accès. Alors que n'importe qui, théoriquement, pourrait l'avoir, ben vous n'avez pas accès parce que vous n'avez pas la culture. Et donc, c'est à cela, finalement, déjà, ça nous rend libres parce que le Christ nous ouvre à une sagesse, une culture, une intelligence des choses qui nous rend plus intelligents, qui nous ouvre le cœur et l'état d'esprit. Et puis plus profondément, évidemment encore, la grande sagesse du Christ, c'est sa miséricorde qui est apparaît, qui est révélée et qui est efficace par la passion et la résurrection, par sa croix. Ce que nous dit saint Paul, la sagesse du Christ, c'est sa passion, c'est sa croix. C'est-à-dire sa miséricorde infinie, la manière dont il se unit à notre péché, il s'est fait péché pour nous, même le plus noir des péchés, pour sauver le plus noir des pécheurs, hein, pour aller le chercher, se mettre à sa hauteur. Donc on entre dans une logique, une connaissance, une sagesse, là, de la miséricorde, qui nous rend libres, parce qu'elle nous libère totalement du péché, du poids de la culpabilité, du jugement. Elle nous libère du tribunal, en quelque sorte, non pas à la manière de... du chanteur là, qui a toujours des lunettes, Paul Naref, ouais, c'est ça. On ira tous au paradis, donc on est tous gentils, et waouh, c'est blanc-bleu, quoi, il faut être gentil avec tout le monde. Et en fait, tout ça, c'est faux, c'est peanuts, il n'y a rien derrière. Enfin, ça méprise complètement la réalité de la vie, quoi, qui n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Et donc, mais le Christ, c'est le seul qui, par sa sagesse, par sa croix, entre dans la réalité, y compris la plus sombre de notre existence, où rien ne l'arrête, et ouvre un chemin de liberté, et nous rend vraiment libres. Donc le plus noir des pécheurs a toujours un chemin qui s'ouvre devant lui par la personne de Jésus. Donc c'est en cela qu'en étant son disciple, on est vraiment libre. On est libre par l'intelligence, la culture, la connaissance, la sagesse qu'il nous transmet, mais on est surtout libre de ce qui nous entrave, non seulement du péché, mais aussi de notre nature blessée, par notre péché et le péché des autres. C'est pas seulement quelque chose de pécamineux, c'est aussi notre les blessures psychologiques, les blessures dans l'histoire, les blessures affectives, enfin, tout ça. Alors, mais la vérité doit être cherchée selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre recherche, par le moyen de l'enseignement, de l'éducation, de l'échange et du dialogue. Et donc, c'est cette vérité dans ce double aspect, je dirais, philosophique et théologique, on pourrait dire, ou humain et par la miséricorde, par la passion du Christ, don lui-même, eh bien, s'acquiert par des moyens humains, parce que nous sommes humains. Et nous sommes humains personnels, donc libres, avec une intelligence qui a ses exigences, aussi une affectivité qui a ses exigences, etc. Et aussi parce que nous sommes sociales par donc, l'échange et le dialogue. Et donc ça ne peut pas se faire autrement. En fait, il n'y a pas d'autre voie que ça. On peut trouver que c'est lent, que c'est long, parce que ça prend du temps. Comme vous le faites, il faut aller tous les soirs travailler avec d'autres. Il faut se coltiner en petits groupes des gens qui parfois nous agacent ou qu'on trouve inintéressants ou je ne sais pas quoi, enfin, ou lourds. Et puis, il faut aussi se taire pour écouter les autres. Et puis, ou alors, il faut au contraire se violenter pour dire trois mots parce qu'on est plutôt taiseux. Enfin, tout ça, c'est long, c'est pas facile, ça demande des efforts, ça nous bouscule. Ça semble un processus vraiment bien laborieux au vu de tout ce qu'on a dit juste avant, quoi. Et pourtant, nous sommes humains et nous sommes sur cette terre et nous sommes dans l'état où nous sommes. Et donc, Dieu, c'est la voie qu'il a choisie pour nous rejoindre. Donc, du coup, il ne faut pas avoir peur. Comme chrétien, de prendre ses moyens. C'est vraiment le sens profond de ce que je vous ai proposé en venant le mercredi soir. Il y en a un ou l'autre m'a dit, il faudrait passer aux fraternités Emmaüs plus vite, tout ça c'est long, c'est lent, c'est lourd, c'est quand même un télo, c'est beaucoup d'efforts, il faut lire, il faut apprendre, il faut échanger, bon pourquoi, on ne pourrait pas aller un peu plus vite quand même. Ben non, je pense vraiment que ce serait une erreur. Bien sûr, on peut toujours faire vite, mais on n'aura pas du tout le même fruit, quoi. Et puis en plus, je crois que c'est une école pour la manière dont on va travailler en fraternité Emmaüs, dont aussi on va accueillir nos comètes ou les autres, on va s'accueillir mutuellement dans les fraternités, où on va accepter aussi cette lourdeur, cette lenteur, cette exigence de l'intelligence, de l'écoute mutuelle, du travail d'un texte, d'écouter le podcast Rasoir du Père Gauthier, ou le one-man show de Gauthier Chaillet, etc. Bon. Ça fera partie vraiment du tout. Et c'est normal. Et ça peut paraître un peu lourd parfois. Mais bon, voilà. Quand on voit quand même tout l'effort qu'il faut pour pousser, sortir quelques kilos de tomates, quand même, il faut pas mal bêcher, il faut pas mal travailler. C'est vrai, quand même, ça se fait pas comme ça. Alors, la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Alors ça, c'est vraiment... Alors c'est un principe, donc on voit, pour être disciple de Jésus, pour entrer dans la vérité, il faut être disciple de Jésus. Comment disciple de Jésus? Par le travail, l'enseignement mutuel, l'aspect travail communautaire. Mais comment la vérité va entrer dans l'autre et va entrer en moi? Par la force de la vérité elle-même, et uniquement. C'est pas parce qu'on prend des super chants, parce qu'on fait un super repas avant, qu'on est super cool, sympa, décontracté et intelligent, ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Simplement, l'intelligence de la personne va dire « ça c'est vrai » et ça s'impose à moi simplement parce que c'est vrai et je le reconnais comme vrai par mon intelligence et dans mon cœur, dans mon cours de ma conscience. Il n'y a que cette force-là. Et il ne faut pas en chercher d'autres. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même qui s'impose avec force et douceur, je crois, c'est ça, de douceur dedans, en tout cas. Autant de douceur que de puissance, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Ça, il faut y croire, il faut vraiment un acte de foi, parce qu'on est hyper tenté, soit de forcer la vérité, justement, par des artifices positifs, sympathiques, ou alors par des pressions psychologiques. Ah bon, tu crois pas ça? Ah bon, quand même, enfin... Même, bon, t'es chrétien, enfin, quand même. Bien. Donc ça, c'est de la pression psychologique. C'est un... Et donc on essaie de faire avancer la vérité comme ça dans le cœur de l'autre. Mais ça ne marche pas. C'est... Ça ne peut pas marcher. Et on le fait, ça. Hein. Le pire, c'est que il faut vraiment être un peu fin et un petit peu averti, si vous voulez, et puis poser cet acte de foi fortement en soi-même pour se dire, ben, si je crois en la force de la vérité, dès lors qu'on la cherche, qu'on la travaille ensemble, qu'on la travaille ensemble, eh bien, je crois qu'elle s'imposera d'elle-même, réellement, à chacun. Attends, il faut du temps, mais c'est ça l'idée. Si Dieu est vrai, si ce qu'il nous révèle est vrai, s'il est la réalité, s'il est vraiment à la source de tout ce qui existe, rien, pas même ni la science, ni aucune autre, ni aucune découverte, ni rien de ce que l'on découvre de la réalité de la vérité, ne doit nous faire peur, et au contraire s'impose à nous avec autant de force que de douceur. Donc ça, je pense que c'est une sorte de leitmotiv. Il faudrait trouver une formule qui... La force de la vérité dans la douceur, et, enfin je sais pas, c'est un truc. Hein. Parce que ça change tout, vraiment ça change tout. C'est pour ça dire aussi que je vous livre les textes, vous voyez, que je vous laisse discuter entre vous. Je ne me suis pas à me dire, ah ben, ils vont se dire des bêtises, ou il y a une telle ou un tel dans tel groupe, ah, je me dis, ah, celle-là, elle est complètement hérétique, elle n'a rien compris ou il n'a rien compris, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire au reste du groupe, c'est affreux, enfin. Ben non, bien sûr, on est tous hérétiques, on a tous des idées tordues, moi le premier. Mais en fait, j'ai confiance dans le fait que, dans le travail entre vous, autour des textes, la vérité va s'imposer peu à peu. S'il y a un travail communautaire, si on travaille les textes, les écritures, les textes du magistère, si on s'ouvre aussi à l'action de l'Esprit-Saint, ce qu'on n'a pas fait ce soir, je vais vous dire, enfin, j'espère qu'il n'est pas trop mixé quand même, eh bien, ça s'imposera. Il ne faut pas chercher ailleurs une force. Son royaume, en effet, ne se défend pas par l'épée, mais il s'établit en écoutant la vérité, encore faut-il l'entendre, c'est ça le point, non ? Et en lui rendant témoignage, il s'étend grâce à l'amour par lequel le Christ, élevé sur la croix, attire à lui tous les hommes. Donc ça, c'est cette sagesse nouvelle de la miséricorde absolue du Christ sur la croix. Rejetant donc toutes les armes charnelles dont je vous ai parlé, persuasion positive ou négative, suivant l'exemple de douceur et de modestie donné par le Christ lui-même, les apôtres proclamèrent la parole de Dieu avec pleine assurance qu'elle était une force divine capable de détruire les puissances opposées à Dieu et d'amener les hommes à croire dans le Christ et à le suivre, ou à le servir. Là aussi, je ne sais pas si Dieu a dit ça, mais j'ai entendu en tout cas quelque chose comme ça, quelqu'un qui a dit « Surtout ne me défendez pas !» Oui. Souvent, ceux qui veulent défendre une cause, oui, j'ai eu ça dans des mouvements. Alors, vous savez, il y a des gens, ils sont tellement fascinés par le père tel ou par tel mouvement, je suis de tel mouvement. Alors, ils veulent défendre le mouvement, et en fait, ils en ont souvent une perception que très parcellaire, très militante, un peu restreinte, un peu communautariste. Et en défendant le mouvement, ils le desservent gravement, au contraire. Ils sont persuadés de se battre pour le mouvement, mais en fait, ils le torpillent. Et je pense que, quelque part, Dieu nous dit, surtout, ne me défendez pas. Dieu n'est pas une cause à défendre. Jésus n'est pas à défendre. Ça ne veut rien dire. C'est lui qui nous défend. Il est Dieu, bonsoir, bonsoir. Et il le dit dans le Deutéronome, chapitre 2, non, 4, chapitre 4, votre force sera de... votre force sera de rester tranquille, c'est Dieu qui combattra pour vous. Votre force sera de rester tranquille. C'est-à-dire que, ayons foi en Dieu, en lui-même, c'est Dieu qui agit. Nous, on fait des choses, c'est vrai, mais c'est Dieu qui agit, c'est lui qui évangélise. C'est pas moi qui conduis ni la paroisse, ni qui change les cœurs. J'ai aucune prétention à changer vos cœurs, à vous faire changer d'avis en quoi que ce soit, ou même à vous faire grandir. Ce serait une prétention complètement ridicule. C'est Dieu lui-même qui agit. Et s'il n'agit pas, si tout ça est faux, ben, tant pis, ça ne sera pas... Voilà, en tout cas, je ne ferai pas le boulot à sa place, ça c'est certain. Je suis trop paresseux pour ça, et surtout, je n'y crois pas une seconde. Et plus on vieillit, moi j'y crois. Enfin, je ne sais pas vous, mais... Alors, il y avait trois points. Donc, un chemin personnel et communautaire, bon, ça en fait, je l'ai un petit peu déjà dit. De par son caractère même, en effet, l'exercice de la religion consiste avant tout en des actes intérieurs, volontaires et libres, par lesquels l'homme s'ordonne directement à Dieu. Donc, des actes intérieurs, volontaires et libres, vous comprenez, c'est ça ce que j'entends, ce que je lis, ce que je vois, c'est vrai, c'est ça, ça me semble important. Ça, je vais en faire une pierre pour ma vie, je vais en faire un point d'appui. Dans notre existence, on a tous eu des moments comme ça. Ça, c'est vrai, c'est fort, je m'appuie là-dessus. Ça, c'est des actes intérieurs qui font que nous nous ordonnons à Dieu, c'est-à-dire que nous nous ouvrons de plus en plus à Dieu, à son action dans notre vie. De tels actes ne peuvent ni être imposés, ni interdits par aucun pouvoir purement humain. Mais la nature sociale de l'homme requiert elle-même qu'il exprime extérieurement ses actes intérieurs de religion. Donc ça vaut le coup, c'est la dimension publique et sociale de la religion, qui est tout à fait permis par la République, et même, je dirais, presque encouragée par la République. Donc il faut aussi ne pas réduire la République à quelques-uns de représentants qui ont une fausse idée des lois, généralement, et qui ont une idée des lois laïcisantes et exclusives, qui ne sont pas du tout ce que la loi de la République propose. J'avais étudié ça de façon assez fine pour des questions des aumôneries dans les établissements publics secondaires. La loi nous est ultra largement favorable. Enfin, favorable à quoi ? C'est favorable à l'expression publique de la foi dans les lieux publics. C'est tout à fait normal et même souhaité. Parce que même la République préfère que ce soit ainsi, plutôt que d'avoir des arcades et des cercles fermés, communautaristes. Ils préfèrent au contraire que les religions soient sur la place publique et soient participantes de la vie publique. Et ça, pour nous, c'est une nécessité. C'est pas un droit à défendre, c'est une nécessité intérieure de pouvoir vivre socialement notre vie religieuse, et pas seulement qu'avec les religieux, pas seulement qu'avec les catholiques, mais aussi avec les non-catholiques. Que des catholiques puissent faire une procession dans Conflans et que tous les conflanais sont contents que ça se fasse parce que c'est sympa et que c'est un peu le coup des cloches, par exemple. On n'a pas fait sonner les cloches à Saint-Maclou uniquement pour les catholiques. Mais sur Internet, il y a, je ne sais plus combien maintenant, 5 ou 6 000 likes, il y a plein de non-croyants qui disent « Moi, je suis non-croyant, mais c'est génial qu'on sonne... les cloches, parce que ça me rappelle le village de ma grand-mère, ou parce que c'est la vie de notre village de Conflans. » Enfin, il y a des choses. Donc les non-chrétiens se réjouissent aussi de cette expression publique et sociale des catholiques. Et c'est pas forcément prosélyte, c'est simplement parce qu'on existe en France et on a notre place. De même que les musulmans doivent avoir leur place, que les juifs doivent avoir leur place, ou que les, je sais pas, toutes les dimensions de la société. Ah oui, alors ça c'est un morceau. Bon. Donc aimer, c'est choisir quelqu'un et cheminer avec lui. Donc tout ce qu'on a vu avant, c'est le choix de Dieu par l'homme, finalement. C'est comment je choisis Dieu. Un acte personnel, social, et notamment par l'intelligence, le travail, l'étude, l'échange entre les personnes, etc. Bien. Mais là, on se place plutôt du choix de Dieu en ce que Dieu choisit un peuple, un homme, comme vous l'avez lu dans l'évangile selon saint Matthieu, au baptême de Jésus. Il m'a plu de te choisir. Alors, j'ai sorti un petit extrait de Deutéronome 4, un peu avant celui que je citais tout à l'heure. Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand ? A-t-on jamais rien vu de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie ? Est-il un Dieu qui a entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges, des combats, à main forte, à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Il t'a été donné de voir tout cela pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu, il n'en a pas d'autre. Donc ce choix de Dieu sur un peuple, il se fait à travers une histoire, à travers toutes sortes de péripéties, qui sont finalement l'histoire d'une grande résurrection, on pourrait dire, d'une restauration, d'une libération. Mais ce choix, c'est pas juste un instant, je te choisis, ça se fait dans une histoire, dans un processus qui se vérifie et qui est émaillé de toutes sortes de doutes, notamment de révoltes, de doutes, d'incompréhensions. C'est une véritable histoire de couple, quoi, ou l'histoire d'amitié entre Dieu et un peuple. Et donc, par l'histoire d'Israël, Dieu montre ce qu'est l'amitié, ce qu'est ce choix, ce qu'est cet amour de Dieu pour quelqu'un, pour un peuple. Et ça, les nations le voient, toutes les nations le voient. En fait, Israël devient une école d'amour. Donc, Israël apprend à aimer Dieu en découvrant qu'il est aimé de Dieu, et il apprend aussi à être aimé de Dieu. Et en même temps, les nations qui sont autour d'elle, notamment les Assyriens et les Égyptiens, mais aussi tous les autres peuples, de Canaan, les Philistins qui viennent des îles lointaines, ils voient de quel amour Dieu aime son peuple Israël. Même s'ils en prennent plein la tronche parce qu'ils sont libérés de leur emprise par Dieu. Et donc le choix de Dieu sur Israël, il n'est pas seulement déjà pour Israël, il est aussi, par la négative, mais pour les autres nations. Alors est-ce que ça signifie que Dieu dit, ben voilà, c'est Israël mon préféré, puis les autres, ben, ils peuvent crever, et puis finalement, ils vont disparaître. Alors là, c'est un extrait de Isaïe au chapitre 19. « Le Seigneur se fera connaître de l'Égypte, et l'Égypte connaîtra le Seigneur ce jour-là. Elle le servira par des sacrifices et des offrandes, elle fera des vœux au Seigneur et les accomplira. Le Seigneur frappera l'Égypte, il frappera et guérira. Elle reviendra au Seigneur, l'Égypte, qui l'écoutera et la guérira. Ce jour-là, il y aura une route pour relier l'Égypte et Assour, Assour c'est la Syrie, Assour viendra en Égypte et l'Égypte en Assour, qui sont les ennemis absolus. Égypte et Assour, ils ont passé des millénaires à se taper dessus, avec Israël au milieu, comme tu prenais un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Et l'Égypte avec Assour servira le Seigneur. Ce jour-là, entre l'Égypte et Assour, Israël viendra en troisième, bénédiction au milieu de la terre, que bénira le Seigneur de l'univers, en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, béni soit l'Égypte, mon peuple, Assour, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. » Ça y est, ce texte est complètement extraordinaire. Donc, il manifeste bien que cette élection d'Israël, elle a comme but de faire de l'Égypte, par un autre chemin que celui d'Israël, mais qui arrive au même but, qui arrive au même résultat, que l'Égypte, la Syrie, et Israël découvrent que Dieu est leur Dieu et qu'ils sont aimés de Dieu qui se mouve pour eux, qui combat pour eux, qui donne tout pour eux. Mais que Dieu attend de sa bien-aimée qu'elle agisse selon sa loi, selon sa sagesse éternelle, qu'elle se laisse transformer, libérer, purifier. Et donc, pour Israël, a un chemin, et puis comme par négatif, hein, comme le négatif d'une photo, si vous voulez, Égypte et Assyrie aussi ont un chemin. Mais les deux sont un chemin qui mène à la même alliance, si vous voulez. Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc je l'avais un petit peu abordé l'année dernière, pour ceux qui étaient venus je crois que beaucoup d'entre vous étaient venus l'année dernière à nos formations, les 3x2 formations, vous savez. Il y avait eu un volet sur l'élection d'Israël, et sur le choix de Dieu, enfin, qui du coup retrouve ce point-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait étudié un extrait de Lustiger sur cette question-là. Et donc j'avais traité ça et j'avais fait le lien avec le fait que des personnes soient croyantes et soient non-croyantes, et notamment dans un couple, où elle ou lui sont croyants et l'autre ne l'est pas. Ça peut être aussi le cas avec des enfants, par rapport à leurs parents, ou par rapport à leurs frères et sœurs aussi. Pourquoi certains sont choisis et puis d'autres pas. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça vraiment la clé. Et puis du coup aussi des amis, des gens avec qui vous travaillez, des gens que vous connaissez. Donc on entend toujours le truc, ah ben lui il n'est pas chrétien, mais il est meilleur que les chrétiens. Donc finalement il faudrait mieux qu'on soit tous athées pour être aussi bon que lui. Une espèce de relativisme un peu comme ça. Alors que pas du tout. C'est-à-dire que en entendant ce que je viens de dire là, s'esquisse une stratégie de Dieu qui vise tout le monde. Donc les croyants et les non-croyants sont dans une même stratégie, sont dans une même œuvre, dans une même gigantesque bataille. Ils ont simplement des chemins qui ne sont pas les mêmes, mais en fait le but est exactement le même, et Dieu travaille tout autant en Israël, on l'a vu, qu'en Égypte et en Assyrie. Mais il travaille différemment. Et donc n'allons pas croire une demi-seconde que le croyant serait un peu le... Enfin, il est le chouchou de Dieu, c'est important qu'il apparaisse comme tel et qu'il le soit vraiment, mais c'est le chouchou infidèle, qui est chouchou de Dieu, mais qui se dit comme... mais qui, sous couvert d'être chouchou de Dieu, fait n'importe quoi. Vous voyez, c'est le petit chéri de sa maman qui fait des grands sourires à sa maman, tout va très bien, et par derrière, il est infernal avec ses frères et sœurs, avec ses camarades de classe, et de la peste. Et la mère est très surprise de ce qu'on lui dit de son enfant adoré, elle ne comprend pas. Voilà, donc l'enfant profite en fait de cette espèce de couverture pour en fait cacher les pires comportements. Donc ça c'est l'Israël. Et ça c'est le péché du croyant. Le croyant, comme il est croyant, il se dit, je suis tranquille, je suis l'ami de Dieu. Et donc il s'en sert pour couvrir son propre péché. Non pas pour se convertir, mais au contraire comme une couverture, donc qui maintient le péché en dessous, qui prolifère 10 fois plus vite d'ailleurs, s'il est bien au chaud. Et voilà. Donc ça, c'est le péché de celui qui est élu. Alors on va dire que c'est du pharisaïsme, oui, on peut appeler ça comme ça si on veut. C'est une manière de dire ça, c'est ce que dit Jésus d'ailleurs. Vous êtes un sépulcre béant, vous êtes un sépulcre, à l'extérieur vous êtes blanchi, et à l'intérieur vous êtes plein de cadavres et de pourriture, c'est ce que dit Jésus. Donc ça, c'est le péché du croyant. Et puis, il y a le péché de l'impie, du non-croyant. Donc ça, c'est vraiment le péché d'Israël, ce que je viens d'écrire avant, là, c'est le péché d'Israël, mais c'est aussi le péché de tout croyant. C'est le même phénomène que Jésus dénonce, et puis qu'il dénonce en nous après, dans les actes des apôtres, on voit ça après, dans les lettres de Paul, et puis dans toute la vie spirituelle ensuite. Et puis nous-mêmes, on voit bien que là, il y a le combat. Et puis le péché de l'Égypte, c'est l'orgueil de celui qui est face à Dieu, qui s'est construit son propre Dieu, son propre système de croyance, et qui s'est construit son propre repère de croyance, il s'est fait sa religion à lui, parce que l'Égypte comme la Syrie, ils ont une religion, ils sont pas, tout ça est très organisé, ils sont très forts, c'est pas... Et même d'ailleurs, leur religion ressemble beaucoup à la religion d'Israël par plein de points. Mais donc, le péché du païen, du non-croyant, c'est de se construire son propre référentiel de croyant. Donc, dans l'agnosticisme ou dans l'athéisme d'ailleurs, mais ils ont toujours leur croyance. Ils croient, je ne sais plus quel ministre de l'Éducation nationale, il y a pas mal de temps, avait professé sa foi. Il le disait dans les mêmes termes que les chrétiens, et même, je crois qu'explicitement, il le disait. Ma croyance, c'est la révolution, c'est Robespierre, c'est la terreur, c'est ça, ma croyance, c'est ça la première pierre du monde nouveau. Il le disait vraiment comme une religion, Pourquoi pas, c'est son opinion, mais... Et donc pour lui, clairement, c'était sa religion. Enfin, il avait son système de croyance sur lequel il avait bâti toute sa vie. Mais l'orgueil du pécheur, du païen, c'est justement de se construire sa tour de Babylone, sa croyance, en face de Dieu et contre lui-même.